Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 FM autour de Compiègne et Graphite.net dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, deuxième session de présentation des projets du cours Low-techisation et numérique de l'UTC. Je suis donc Stéphane Croza en studio avec Chloé, Dimitri, Nathan, Anouk et Victor. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et donc on va attaquer par le premier projet, sera donc celui de Chloé, Dimitri et Nathan, le projet Low Tech Push, suivi par Boris Bersenev du CEA. L'objectif en général du cours Low Techisation et numérique, eh bien, c'est de faire un travail de conception ou de reconception autour des enjeux socio-écologiques. Alors on a parlé de diverses choses dans le cadre de l'UV, on a fait divers projets, le microscope Low Tech, des ordinateurs qui durent longtemps, des voitures légères, on a vu avant des applications agricoles avec des robots et des drones. Donc à chaque fois, vous voyez, on n'est pas dans de la low-tech au sens de, d'outils forcément basiques. Souvent, il y a des enjeux numériques qui sont là. Et puis là, on va le voir, on a un projet avec le CEA. Parmi les différentes méthodos et concepts particuliers que les étudiants doivent mobiliser, eh bien, je peux citer le fait qu'ils doivent essayer de positionner les projets, les critiquer vis-à-vis de trois leviers. Le levier optimisé. Alors ça, c'est assez classique pour des ingénieurs hein, de chercher à optimiser, mais également se poser les questions en termes d'imagination et en termes de politisation, qui ne sont pas forcément là pour le coup, des axes aussi classiques. Alors, eh bien Chloé, Dimitri et Nathan, si vous êtes prêts et prêtes, eh bien je vous donne la main pour nous parler de votre projet Low Tech Push. Chloé, je crois que c'est à toi.
Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, Nathan, Dimitri et moi allons vous présenter notre projet d'IS3 intitulé Low Tech Push, suivi par Boris Bersenev, chef de laboratoire au CEA. Le CEA est un organisme public de recherche technologique qui travaille sur différents sujets, énergie bas carbone, numérique, médecine du futur ou encore défense et sécurité. Le but du projet est de proposer une méthodologie permettant à un organisme public de recherche d'intégrer des propositions d'alternatives low-tech dans sa stratégie commerciale et marketing. Nous avons travaillé essentiellement dans le contexte du CEA. Définissons tout d'abord ce qu'est une low-tech. Il s'agit d'un terme qui s'oppose à celui de high-tech et qui, contrairement à celle-ci, essaye de faire moins. De faire plus sobrement. Que ce soit pour une conscience écologique ou pour une incapacitation des usagers, le low-tech n'est pas un état. Aucun objet n'est low-tech, mais certains objets le sont plus que d'autres. Dans ce cadre, nous avons étudié comment une culture du low-tech pouvait être développée au CEA, de sorte à ce que plus de projets du CEA intègrent des aspects low-tech. Pour ce faire, nous avons conçu 5 produits. Un catalogue de projets low-tech qui permet de recenser, entre autres, des rapports de projets déjà réalisés en interne ou au sein d'autres organisations. Un questionnaire destiné à des chefs de projet low-tech afin de classer les projets, les mettre dans un classeur, les enregistrer et étudier des retours d'expérience. Des formations internes qui cherchent à sensibiliser le personnel et encourager une culture de la low-tech au sein de l'organisation. Ensuite, un site de sensibilisation à la low-tech accessible à toutes sur le web, pas uniquement en intranet. Et enfin, des posters de sensibilisation à la low-tech ayant vocation à être affichés dans les bâtiments.
Cette posture low-tech, cette posture basse technologie sur laquelle je vais revenir, elle est loin de faire consensus. Hein, pour tout dire, aujourd'hui, il y a même un dissensus, une divergence importante, assez fondamentale, sur deux visions du monde, toutes les deux légitimes, deux visions de la technologie. Aujourd'hui à l'UTC, qui se traduit, il y a un certain nombre d'acteurs à l'UTC, un certain nombre d'enseignants-chercheurs, y compris à la direction de l'UTC, qui estiment que développer cette posture, ça menace l'identité même de l'UTC, ça menace le T. Université de technologie de l'UTC. Et puis, il y en a d'autres, avec Stéphane en particulier, Guillaume Cardinaux que tu as cité, d'autres également, les étudiants avec lesquels on a beaucoup travaillé, qui estiment qu'au contraire, travailler sur cette posture de low-tech, c'est une manière de renouveler aujourd'hui, de façon nécessaire, le sens de la technologie. Donc là, c'est une posture qui fait dissensus.
Vous venez du coup d'écouter un extrait de Hugues Choplin dans une conférence intitulée « Un ingénieur low-tech est-il possible ?» publiée par l'association Scénarii sur leur chaîne tube.picassoft le 23 juin 2022. Donc on peut constater que la posture low-tech est loin d'être largement acceptée, même dans des environnements a priori favorables à la low-tech, comme l'UTC qui a un cours de low-techisation. On observe donc le problème d'adoption des low-tech, qui ne sont pas forcément considérés partout comme de bonnes choses. C'est dans ce contexte que je vais vous parler d'un des articles que l'on a analysé dans la veille de notre projet, qui tente de répondre à ce problème. Il est intitulé « Expérimenter et rendre désirable les low-tech » et il a été publié en 2022 par Morgan Meyer. Dans cet article, l'auteur s'intéresse au low-tech lab, plus particulièrement à trois de ses projets. Le premier est le Nomade des mers, qui est un catamaran low-tech qui voyage à travers le monde, documentant les low-tech qu'il trouve et expérimentant avec celles-ci. L'habitat low-tech, une tiny house où sont expérimentés les low-tech à usage domestique, et enfin des tutoriels qui sont une base de ressources et de connaissances pour permettre à tout le monde de s'approprier les low-tech. Mais d'abord, qu'est-ce que le low-tech lab ? Celui-ci se définit comme un projet de recherche et de documentation collaborative visant à diffuser et à promouvoir les low technologies. Dans leur site, ils définissent les low-tech comme des objets techniques qui suivent les trois axes de l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. Dans l'article, pour eux, le plus important dans les low-tech serait l'autonomisation des utilisateurs et utilisatrices. En IS3, on propose une autre définition de la low-techisation, qui fait appel au concept de soutenabilité écologique, que l'on pourrait rapprocher de la durabilité, de la convivialité technique, un concept de Inyan Illich proche de l'appropriation, et la responsabilité sociale, que l'on peut rapprocher de l'utilité, même si le terme d'utilité est sûrement trop large, car toute technique est toujours utile à quelqu'un. Un point important apporté par la low-techisation est la notion de processus plutôt que d'état. La low-tech n'est pas quelque chose d'absolu, c'est toujours en partie subjectif. On peut donc le positionner par rapport à des évolutions ou à des alternatives. Par exemple, le vélo est un mode de transport plus low-tech que la voiture, mais il est par exemple moins low-tech que la marche. Ceci dit, l'objectif du low-tech lab est de diffuser et de promouvoir les low-tech. Ils investissent donc de nombreux canaux de communication, et ce sont ces canaux de communication qui ont été étudiés par Morgan Meyer dans l'article que je vais vous présenter. Ils publient premièrement des livres, par exemple pour le Nomade des mers, ils nous ont publié le livre Nomade des mers, tour du monde des innovations, qui retrace le parcours du catamaran autour du monde, exprimant autant d'un point de vue subjectif, arbitraire et humain, les membres de l'expédition et les low-tech utilisés. Mais il présente aussi un point de vue objectif, documentant comment reproduire les technologies expérimentées. De plus, on peut constater que les échecs sont documentés au même titre que les réussites, et que les échecs prennent une place importante dans les livres, ainsi que les améliorations qu'on pourrait apporter. Ils produisent des rapports, comme celui sur l'habitat low-tech, intitulé « Habitat low-tech, présentation ». Ce rapport expose les résultats des 11 systèmes évalués dans l'habitat low-tech. Il le fait premièrement d'un point de vue objectif, montrant des données, des calculs, des graphiques, et classant chaque technologie selon différents critères d'analyse. Mais ils ont également une seconde partie où les habitants de l'habitat low-tech se livrent à leur propre analyse subjective, retraçant leur vécu et leur ressenti personnel. Et dans cette analyse, certains dispositifs sont considérés comme des échecs et tous incluent des perspectives d'amélioration. Ils produisent également des séries télévisées. En effet, pour le Nomade des mers, ils ont collaboré avec Arte pour produire Nomade des mers, les escales de l'innovation, une série de 15 épisodes. Dans cette série, on accompagne l'équipage à travers leur périple centré autour des low-tech. L'emphase est mise sur le côté humain de l'aventure. On se focalise beaucoup plus sur les émotions des membres, sur leur instant de vie, et leur joie et leur tristesse que dans le livre. Mais sinon, on y retrouve une trame narrative similaire avec celle du livre. Après, c'est normal, ça raconte le même périple. Ils font également des vidéos qui sont publiées sur leur site pour documenter leur aventure, présenter à un grand public comment on fait pour vivre dans l'habitat low-tech et pour faire des tutoriels par vidéo. On y retrouve à peu près les mêmes désolé.
Les mêmes éléments que dans les précédents, les principes d'attaque de pour et contre, c'est ça ?
C'est ça, merci. Et ils produisent également des tutoriels écrits avec des illustrations qui ont exactement les mêmes éléments. Un truc intéressant qu'on peut noter à propos de ces tutoriels, c'est qu'ils essayent d'être honnêtes et également ils essayent de ne pas être trop précis pour que chacun puisse l'approprier et en faire ce qu'il veut. Donc on peut voir que par ces nombreux canaux de communication, le Low-Tech Lab est dans une logique de conversion de la population. Son objectif est bien de faire adopter les low-tech par le plus de personnes possible, et on peut voir quelques singularités dans leur approche comparées aux approches un peu plus classiques. Ils présentent leur échec, ce qui, selon eux, n'a pas marché, et proposent des voies d'amélioration. Ils ne présentent pas leur technologie d'une façon froide et désincarnée, et ils la mettent toujours dans leur contexte. Ils présentent et parfois mettent en scène les personnes, les émotions et le collectif dans lesquels ces technologies prennent place. Les technologies et les projets ne sont pas considérés comme des choses objectives et entièrement mesurables, mais comme des objets sociaux que l'on peut rattacher aux personnes, à leur sensibilité et à leurs compétences techniques. Pour notre projet, nous avons donc essayé d'apprendre de ces spécificités et d'inclure une partie subjective dans les descriptions des projets low-tech pour ne pas les présenter comme uniquement des techniques désincarnées.
La deuxième piste, c'est se dire, une fois qu'on a fait de la sobriété, mais que quand même on va garder la machine à laver, le vélo, je ne sais pas quoi, et quelques autres trucs quand même sympathiques, c'est de faire de l'éco-conception, de la vraie éco-conception. Alors c'est quelque chose qui existe déjà un petit peu, avec des analyses de cycle de vie, etc. Mais on est très très limité, et puis surtout, on se focalise sur la question du CO2, ce qui est très bien, mais il y a d'autres sujets, la question des ressources, la question de la durée de vie de ces objets, leur réparabilité, leur modularité, leur facilité à démanteler en fin de vie. Plus vous utilisez des objets qui vont être mélangés, justement, plus vous utilisez des matériaux qui seront complexes, etc., plus ça se passera mal, comme on l'a vu tout à l'heure en recyclage. Donc voilà, faire des objets très durables, peut-être avec le moins d'électronique possible quand on peut s'en passer.
L'extrait audio que nous venons d'écouter est issu d'une conférence sur la low-tech donnée par Philippe Biwix, ingénieur et figure du mouvement low-tech, le 20 septembre 2021 à l'École Polytech Montpellier. Dans cet extrait, Philippe Biwix insiste sur la nécessité de repenser nos priorités techniques et ce qui se cache derrière le concept d'éco-conception. Il nous incite à remettre en cause notre rapport à la haute technologie. La low-tech, malgré l'intérêt croissant qu'elle suscite, reste un domaine où l'information est parfois difficile à trouver, comprendre ou vérifier. Dans notre projet Low-Tech Push, nous nous sommes posé cette question dans le cadre de la démarche low-tech. Comment accéder à des informations fiables qui permettront à chacun de concevoir des projets avec un ou plusieurs aspects low-tech? Pour y répondre, nous avons imaginé un site web de sensibilisation conçu pour accompagner les agents du CEA dans leur découverte de la démarche low-tech. Il regroupe à la fois de la documentation, également des références de publications, des vidéos, des podcasts, des dernières actualités ou encore des retours d'expérience. Je vais m'arrêter sur un aspect essentiel. Plutôt que d'essayer de convaincre à tout prix, ce site est surtout conçu pour répondre aux questions que les employés du CEA se posent face à la low-tech, leurs doutes et leurs critiques, au-delà d'être un outil d'information. Le site peut se découvrir lors d'une recherche internet classique, mais aussi via des supports physiques. Ce qui suit est une histoire qui pourrait être vécue au sein du CEA. Elle est issue d'un travail de maquettage, en d'autres termes, mettre en scène les produits du projet par l'intermédiaire de récits. David, employé du CEA, est sceptique sur la low-tech et pense qu'il s'agit d'une mouvance idéaliste sans appui concret dans le réel. Un jour, dans la salle de réunion de son département du CEA, il tombe sur un poster accrocheur sur lequel il lit « Vous trouvez que les low-tech sont trop astreignantes, nous aussi », avec un QR code en dessous. Surpris, il le scanne et tombe sur une page qui liste les aspects contraignants de l'approche et des méthodes low-tech. Il trouve également pour chacun des points une explication ou un contre-argument qui peut être apporté. Par exemple, il tombe sur cette objection. La démarche low-tech, c'est forcément abandonner la high-tech. Une réponse est donnée par la suite. La low-tech ne rejette pas la technologie, mais questionne sa pertinence. Par exemple, un microcontrôleur peu énergivore utilisé pour prolonger la durée de vie d'un système s'inscrit dans une démarche low-tech s'il est facilement réparable. Il n'apporte pas de complexité supplémentaire. Un formulaire lui demande à la fin « Et vous, que trouvez-vous critiquable en parlant des low-tech ?» Quelques jours plus tard, il reçoit un mail lui remerciant d'avoir participé sur le site et lui donne une explication, un contre-argument au point qu'il a abordé. Il se rend sur le site et il remarque maintenant que celui-ci contient l'aspect contraignant qu'il avait mentionné. Cette démarche surprend David et suscite son intérêt. Il se sent écouté et a surtout envie d'en savoir plus, notamment sur les événements organisés au CEA. Après le maquettage, dans la démarche que nous avons suivie, vient l'étape au cours de laquelle nous définissons les fonctions associées aux produits du projet, ainsi qu'une analyse orientée low-techisation pour chacune d'entre elles. En d'autres termes, quelles sont les valeurs, leviers et tensions de la fonction considérée? Quelques exemples de fonctions. Le site web du CEA permet à ses utilisateurs et utilisatrices de s'informer sur les événements à venir et de s'y inscrire via un calendrier d'événements. Ce calendrier donne un aperçu par semaine, mois, trimestre ou encore semestre des différents événements à venir. Et l'utilisateur peut choisir l'aperçu qui lui convient. Les événements peuvent être des formations, ateliers collaboratifs comme les fresques, des fresques du low-tech ou encore des formations. Et chaque événement est répertorié dans un créneau du calendrier et accompagné d'informations avec les lieux, les horaires et le nombre d'occurrences. L'employé connecté à son espace personnel peut donc s'inscrire directement à un événement en cliquant sur le créneau. Cette fonction repose sur deux valeurs. D'abord, la simplicité. L'inscription aux événements organisés au CEA est réalisable sur la même interface que le calendrier des événements. Les membres du CEA peuvent décider de leur participation en fonction de leur disponibilité. Et ensuite, de l'autonomie, puisque l'accès aux inscriptions permet aux membres du CEA de se renseigner sur le type d'événement qu'ils souhaitent rejoindre. Le site web permet également de présenter des événements passés organisés au sein du CEA aux visiteurs du site web. Une page est accessible depuis la page d'accueil pour accéder à une liste d'événements passés. Les visiteurs peuvent défiler la page vers le bas pour avoir un aperçu des différents événements. Pour chaque aperçu, il y a une illustration avec un événement suivi d'une brève description textuelle. Pour en savoir plus, les utilisateurs cliquent sur un événement et une page s'ouvre. Les événements sont de plusieurs types, ateliers collaboratifs autour de la low-tech, formation, organisation de fresques. Cette fonction du site web repose sur la valeur de partage. Présenter et mettre en avant des événements passés au sein du CEA constituent des exemples de sensibilisation au low-tech. Elle s'appuie de même sur un levier, celui de la littératie, rend accessible des événements organisés, permet de construire un historique qui aide à retracer les ateliers, formations en lien avec la low-tech au CEA.
Donc il y a des effets rebonds microéconomiques à l'échelle individuelle. Donc par exemple, on s'est rendu compte quand on observe les personnes qui passent à l'électrique ou à l'époque à l'hybride, et ben en fait elles se disent ah bah maintenant j'ai une hybride donc c'est cool, c'est écolo, et donc en fait je conduis plus qu'avant, donc je prends plus souvent la voiture. Donc même si ta voiture elle consomme moins, t'économises un petit peu, mais tu te mets à faire plus de kilomètres. Donc en fait ça rebondit un petit peu, donc ça vient pas forcément rebondir complètement, ça dépend de ton usage. Pareil, un effet rebond là qu'on dirait microéconomique indirect, t'arrêtes de manger de la viande. Bon, la viande, c'est une grande partie du budget de l'alimentation. D'un coup, tu te rends compte que bon, bah, tu as économisé pas mal d'argent sur quelques mois. Tu te dis, bah, trop bien, j'ai un peu de sous, bah, je vais aller en vacances. Et tu prends l'avion pour aller en vacances. En fait, les émissions que tu n'as pas émises en mangeant de la viande, elles vont rebondir dans ton billet d'avion.
L'extrait audio que nous venons d'écouter est tiré d'une intervention de Timothée Parik, économiste français. Dans cette intervention, il explique le concept d'effet rebond en montrant comment les gains d'efficacité technologique ne suffisent pas toujours à réduire nos impacts environnementaux. Au contraire, ces gains peuvent entraîner une augmentation des usages, annulant les bénéfices attendus. Ce constat rejoint les questionnements que nous avons menés dans le cadre de notre projet Low-Tech Push en mobilisant justement un outil d'anticipation de ces effets rebonds. Je vais maintenant vous présenter un travail mené dans le cadre de notre projet Low-Tech Push au sein du CEA. Nous avons mené dans le cadre de notre projet une phase d'évaluation qui consiste à mobiliser des outils méthodologiques pour questionner le maquettage et l'analyse proposée. Cette évaluation peut conduire à modifier le projet ou à le maintenir tout en le soumettant à une critique explicite. Dans notre cas, un des outils que nous avons utilisé pour cette évaluation est celui des effets rebonds. Cet outil a pour objectif d'imaginer les conséquences directes et indirectes de l'usage du projet. Il permet d'anticiper les effets souhaités, mais aussi les effets non souhaités à différentes échelles de temps. Il s'organise en plusieurs étapes. D'abord, on identifie les effets directs visés, c'est-à-dire les bénéfices immédiats attendus. Ensuite, on explore les effets indirects positifs ou de second ordre qui peuvent apparaître à mesure que le projet se diffuse. Puis, on analyse les effets indirects non souhaités, à court terme, à peu près 3 ans, et à moyen terme, à peu près 10 ans, comme les détournements, les dérives ou les effets contre-productifs. Enfin, on propose des plans d'action pour limiter ces effets négatifs. Nous avons donc appliqué cette méthode à notre projet Low-Tech Push. Et voici les résultats. Les effets directs visés par Low-Tech Push sont triples. D'abord, faciliter la création de projets low-tech ou de projets comportant des aspects low-tech au sein du CEA. Pour cela, un catalogue de projets déjà existants est mis à disposition des membres du CEA, accompagné d'un travail de sensibilisation. Ensuite, le projet vise à faciliter l'adoption de ces solutions par les clients, en recensant les avantages et les inconvénients des projets déjà menés. Le catalogue permet aux clients de se projeter plus facilement vers des solutions low-tech. Enfin, Low-Tech Push cherche à sensibiliser le maximum de personnes à la démarche low-tech grâce à des formations et des conférences accessibles à tous les membres du CEA. À partir de ces effets immédiats, on peut anticiper plusieurs effets indirects souhaités. Par exemple, un chef de projet ayant suivi une formation pourra plus facilement intégrer des alternatives low-tech dans ses propres projets, en s'appuyant sur le catalogue. De plus, la démarche low-tech peut dépasser le cadre professionnel. Certains membres du CEA peuvent décider d'en appliquer les principes dans leur vie personnelle, à travers les discussions et les échanges générés par les formations. L'engagement du CEA dans les projets low-tech pourrait également influencer les entreprises partenaires. Même si elles ne sont pas venues avec cette intention, elles pourraient être convaincues par l'intérêt de la démarche et décider d'adopter davantage de solutions low-tech. À long terme, en multipliant les projets, Low-Tech Push espère contribuer à populariser la démarche low-tech à une échelle plus large. Mais l'outil des effets rebonds sert aussi à imaginer ce qui pourrait mal fonctionner. À court terme, plusieurs effets non souhaités peuvent apparaître. Si certaines solutions proposées ne fonctionnent pas, cela pourrait nuire à l'image de la low-tech et freiner son adoption. Des entreprises pourraient utiliser les solutions low-tech uniquement à des fins marketing, sans réelle volonté de transition. On parle alors de greenwashing. Des projets seraient étiquetés low-tech pour en tirer les bénéfices d'image, alors qu'ils n'en respecteraient que superficiellement les principes. Cela risquerait de dégrader la crédibilité de la démarche, en brouillant les repères pour les acteurs sincèrement engagés dans la low-tech. Enfin, certains produits nécessitent des mesures de sécurité high-tech, et une approche trop simplifiée pourrait poser des problèmes de sûreté. C'est notamment le cas de batteries lithium-ion, largement utilisées dans les appareils mobiles, les véhicules électriques ou les systèmes de stockage d'énergie. Ces batteries sont chimiquement instables et peuvent présenter des risques d'explosion ou d'incendie en cas de surchauffe, de court-circuit ou de perforation. Pour éviter ces accidents, on a recours à des systèmes de gestion électronique complexes, comme des capteurs de température, des dispositifs de coupure automatique ou des contrôleurs de charge. Si l'on essaie de low-techiser ce type de produit sans intégrer ces dispositifs de sécurité essentiels, on s'expose à des dangers importants pour les utilisateurs. À moyen terme, un effet rebond de troisième ordre pourrait apparaître. La logique de consommation des clients ne serait pas remise en question, même si les solutions low-tech sont mises en place. En d'autres termes, on continuerait à produire autant, voire plus, mais de manière un peu plus sobre. Ce type d'évolution pourrait non seulement annuler les bénéfices attendus, mais aggraver la situation. On réduit la consommation d'énergie ou de matières premières pour chaque objet, mais si le nombre total d'objets produits utilisés augmente, la consommation globale augmente aussi. Autrement dit, on consomme mieux, mais on consomme plus, donc au final, on consomme pire. Autre risque, un déséquilibre des compétences internes au sein du CEA. Si le CEA investit trop fortement dans la low-tech, cela pourrait conduire à un désinvestissement dans les technologies de pointe. Des domaines stratégiques comme le nucléaire pourraient entraîner une perte de souveraineté technologique. Pour faire face à ces risques, plusieurs plans d'action ont été proposés. Un processus de validation peut être mis en place pour reconnaître les projets avec des aspects low-tech pertinents. Un comité d'experts interne au CEA pourrait statuer le caractère réellement low-tech d'un projet en s'appuyant sur un référentiel clair de critères définis collectivement. Une charte d'engagement peut également être instaurée, engageant les projets à utiliser des solutions low-tech pour réduire les impacts et non pour des raisons d'image. À plus long terme, on pourrait développer des projets mixtes mêlant low-tech et high-tech pour allier robustesse et sécurité, comme pour ces batteries. Enfin, l'introduction de critères éthiques dans le processus d'évaluation permettrait d'aligner les choix techniques avec les objectifs environnementaux et sociétaux du CEA. Merci pour votre écoute. Si vous voulez en apprendre plus sur notre projet, vous pouvez trouver l'intégralité de notre travail sur notre site web lonum.scenari-community.org.
Merci beaucoup, merci à tous les trois pour la présentation de votre projet. Alors je vais vous relayer quelques questions, il y en a aussi par Anouk et Victor qui sont en studio, donc ils vont peut-être vouloir vous les poser en direct, ils prennent un peu de risque parce qu'ils passent juste après, ils vous ont préparé des questions pas très simples. Mais peut-être je peux commencer par... Victor, non t'es prêt, c'est ça tu veux, non, je commence par une autre question... vous en avez parlé un petit peu à la fin, mais peut-être revenir dessus. C'était une question de Hugo, c'est-à-dire en fait comment on va garantir la qualité, la cohérence. C'est une problématique générale qu'on se pose en tant qu'ingénieur en fait, hein, des projets qui vont être proposés. Si tout le monde peut éditer en quelque sorte. Alors t'en as parlé un petit peu avec la perspective d'un comité par exemple à la fin. Est-ce que vous avez imaginé différentes pistes autour de ça ou de le fait que les membres peut-être peuvent se corriger les uns les autres ou Allez, Dimitri, c'est parti. Je crois, ou comme vous voulez, ou Nathan. Allez, Dimitri d'abord, Nathan ensuite, c'est parti.
Donc, on a un peu réfléchi à ça. Déjà, premièrement, à chaque fois que quelqu'un fait une modification dans le catalogue de projets. Cette modification est enregistrée, donc si quelqu'un décide qu'il n'est pas d'accord avec les changements du CEA et décide de tout supprimer, eh bien on sait qui a fait ça et on peut revenir en arrière. Ensuite, le fait qu'on puisse voir les modifications aide à construire quelque chose de collaboratif, un peu comme Wikipédia, où les uns éditent, ou au fur et à mesure d'éditions successives, on a un projet qui devient de mieux en mieux. Et au final, vu qu'il n'y a ni anonymat et que toutes les personnes sont CEA et sont employées, elles ont intérêt à ne pas faire n'importe quoi. On peut dresser le parallèle avec le fonctionnement de MyScenary, qui est la plateforme avec laquelle on fait nos sites pour IS3. Techniquement, je travaille sur Low-Tech Push, mais je pourrais très bien modifier le projet
Stop Méga Projet, par exemple.
Voilà, le projet Stop Méga Projet, et je pourrais écrire n'importe quoi, mais vu que je suis dans IS3 et que j'ai un intérêt à ne pas faire n'importe quoi, bah, je vais essayer de faire des trucs qui sont productifs.
Merci Nathan, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, ça couvrait...
Dimitri a tout dit.
Parfait. Allez, donc Victor, si tu as envie de poser ta question directement, tu peux...
Oui, vous parliez de formation low-tech pour les membres du CEA. Est-ce que vous êtes projeté, je sais qu'on a utilisé nous un outil pari durant notre projet pour évaluer le nombre de personnes qui pourraient être touchées par le projet. Est-ce que vous avez évalué un nombre de personnes qui suivraient ces formations?
Donc, au cours de ce semestre, oui, on a étudié l'outil pari et on a établi des paris en chaîne, donc en commençant par évaluer le nombre de personnes qu'on pouvait avoir au CEA. Donc on a fait un premier pari, donc en considérant que 50% du personnel du CEA participe à une formation ou fresque low-tech dans l'année. Et on a évalué ce qu'il se passait s'il y avait un pari réussi ou alors un pari manqué. Et on a vu que si le pari était réussi, on a observé qu'il y avait 30%, donc soit 3000 personnes qui seraient convaincues par la low-tech. Donc on les appelle les convaincus, et pour les paris manqués, donc moins de la moitié du personnel participe à la formation, ce qui veut dire qu'il y a un manque d'intérêt et de curiosité au sein du CEA. Et après on a donc d'autres paris, on a distingué les semi-convaincus, donc des personnes qui vont eux-mêmes prendre l'initiative dans les 6 mois de leur première formation d'intégrer au moins un aspect dans leur projet. Et donc ça nous a permis d'étudier que... participer à une formation pouvait avoir un réel impact au sein du CEA pour intégrer des aspects dans les projets.
Ben merci beaucoup de cette contribution. Les outils Paris, effectivement, c'est ce qui permet de faire des sortes de petites simulations. Alors, à très gros grains, hein, c'est parfois on dit des calculs de coin de table. Donc, c'est pas du tout, des calculs complexes et forcément extrêmement fiables. Mais ça permet de se projeter un petit peu. C'est ce que vous nous présentez là. Anouk, est-ce que tu veux poser ta question à l'antenne?
Oui, merci. Est-ce que votre projet sera disponible seulement au CEA ou est-ce que vous avez réfléchi à une archipélisation de ce projet dans d'autres organismes?
Alors, on en a discuté en effet avec notre suiveur. Et pour le moment, de ce que je retiens, le projet se dirige plus vers l'aspect privé, rester au sein du CEA, étant donné qu'il y a pas mal d'informations sensibles qui tourneraient potentiellement dans le catalogue et qui, du coup, pour garder la compétitivité du CEA, le CEA voudrait donc garder ces informations privées et ne pas forcément les partager, même si la méthode globale de notre projet, pour qu'elle soit plus low-tech, en effet, ça bénéficierait beaucoup de mettre tout ça en public et en ouvert.
Ouais, d'autres organismes pourraient s'en inspirer pour faire la même chose. Après, comme tu viens de le dire, c'est aussi ce qui se cachait derrière le terme d'archipélisation qu'a utilisé Anouk. Ce qui serait effectivement intéressant à un moment, c'est que le CEA partage des informations avec d'autres organismes de recherche, avec d'autres grandes industries. Après, comme tu l'as dit, effectivement, c'est pas forcément aujourd'hui dans la culture très répandue de nos organisations. Hein, tu as utilisé le mot de compétitivité. Donc voilà, il y a aujourd'hui des modes de fonctionnement qui sont pas forcément facile à rendre cohérent avec ça, mais néanmoins, vous avez cité l'exemple de Wikipédia, on voit que des fois quand même on peut arriver à produire des choses comme ça. Il y avait un autre projet IS3 une année passée qui s'appelait l'Ocyclopédia qui allait un petit peu dans ce sens. Écoutez, je ne sais pas si vous avez, il y a eu encore plein d'autres questions, mais on va peut-être s'en tenir là, je ne sais pas, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter.
Merci à tous d'avoir écouté.
Merci.
Merci, bah merci à vous. Donc c'était la présentation du projet Low-Tech Push, donc suivi par Boris Bersenef au CEA. Donc j'étais avec Chloé, Nathan et Dimitri pour vous présenter ce projet. Je rappelle, rediffusion sur aperi.tube d'ici quelques jours, et vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce projet et tous les autres projets d'IS3, et d'ailleurs même tous ceux du passé, sur lonum.fr, lonum.fr. Eh bien, juste après, on aura le dernier projet de l'année. Quelle pression, Stop Méga Projet. Et puis, on va se quitter avec, à nouveau, comme la semaine dernière, une chanson d'Aléa, jeune groupe lillois. Voilà, plein de promesses.
Aujourd'hui, j'ai décidé, surtout pas me dépenser, d'absorber des calories, faire le plein d'énergie. Journée ensoleillée, passer dans le canapé, à surcharger les batteries, accepter les cookies.
J'ai prévu de rien faire, donc je vais rien faire aujourd'hui.
Ah oui.
À part peut-être rester au lit et me dire qu'on y est bien, et que demain j'y serai bien aussi. Je changerai le monde une autre fois, c'est pas pressé. Et puis demain, c'est pas précis, je vais commencer par faire les choses que j'apprécie. Ce que j'apprécie, c'est jouer, c'est lire, c'est faire des mots fléchés. C'est peut-être de faire des déchets ou de faire des mômes chez elle. C'est de fermer les yeux pour pouvoir tout t'imaginer, tout voir, me perdre dans un trou noir. Si je me lève pas, c'est juste parce que le parc est grince, et que le parc d'à côté fait autant de bruit que le parc des princes. C'est confortable une couette quand même. Je m'étais fait la réflexion déjà, mais je vous laisse, le petit déj d'exception est là. C'est du pain, c'est tout. Je suis pas allé faire les courses, y'a R, je jouais à LOL, du coup c'est cool. J'ai tout un tas de trucs à faire aujourd'hui, donc je regarde des vidéos de raccourcis sur Mario Kart Wii.
Aujourd'hui j'ai décidé, surtout pas me dépenser, d'absorber les calories, ensoleillé, passer dans le canapé, à surcharger les batteries, accepter les cookies.
Ah oui, j'ai fait un peu de son, un biscuit dans la cheboue. Attention, là je bouge, j'ai peur qu'on corps ne supporte pas la secousse.
Attention.
Je veux bien gravir l'Everest, mais les efforts c'est demain. Il faut que je demande à ma couverture de me rendre mes deux mains. Aujourd'hui la gastronomie prend un sacré cookie. La forcera à dévorer des montagnes de cookies. Je veux qu'à le rythme du ronron rempli de calories, mon chat passe entre mes jambes comme si c'était Kyle Lowry.
Je pourrais bien sauver la planète, encore faut-il quitter la couette. Pas besoin de moi dans l'immédiat, je retombe sous mes draps. De toute façon, le monde périclite, j'ai pas envie de lui rendre visite. La manne était ma bouée, je suis affalée dans le canapé. Surtout pas me dépenser, d'absorber les calories.